Bienvenue à toutes et à tous dans La Vie en Bleu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moyen de locomotion qui est plutôt agréable, hein, le vélo. Bah oui, vous êtes peut-être vous-même utilisateur de vélo, plutôt sportif, plutôt loisir, plutôt ville, plutôt campagne ou pas du tout. Venez nous en parler parce que le vélo, il a tout bon, dit-on. Le vélo, c'est rapide, c'est bon marché, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est convivial et j'en passe. Les avantages sont nombreux et pas seulement en mode loisir. C'est aussi un moyen de locomotion utilisé en ville, mais il a peut-être parfois des dangers et peut-être avez-vous des envies pour qu'il les pistes soient plus appropriées dans vos villes. Venez en parler avec nos invités, Brestoises et Briochines. Elles sont avec nous et répondent à vos questions sur la façon dont vous souhaitez utiliser le vélo. Cécilia Laurent est membre de BAPAV, Brest à pied et à vélo, et E-Recyclage. Gladys Théo est animatrice en charge de vélo-école chez BAPAV également à Brest. Et Priscilla Janot est membre de Vélo Utile à Saint-Brieuc et de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette.
France Bleu Breizh-Izel, La Vie en Bleu, 02 98 53 65 65.
Cécilia et Gladys, bonjour, merci, vous êtes en direct dans nos studios. Bienvenue.
Bonjour à toutes.
Et Priscilla est en ligne avec nous de Saint-Brieuc. On n'allait pas la faire venir à vélo ce matin de très bonne heure, donc on l'a par téléphone. Bonjour Priscilla.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous faites partie de la Fédération des usagers de la bicyclette qui d'ailleurs en ce moment lance une enquête qui est ouverte jusqu'au 30 novembre qui s'appelle Parlons Vélo.
Oui, absolument. Le baromètre des villes cyclables. Et c'est la deuxième édition. Hein. Il y avait eu une première édition en 2017.
Et alors, ça donne les réponses sur Internet? Ça marche bien?
Alors ça marche très bien. On a déjà d'ores et déjà dépassé le seuil de participation de 2017. Donc quoi qu'il advienne, ce sera une grande réussite hein, pour cette édition 2019. Maintenant, on continue d'inciter les gens à remplir cette enquête qui est la première enquête d'envergure nationale sur le ressenti des cyclistes au quotidien. Donc c'est hyper important que toutes les personnes qui se sentent concernées de près ou de loin remplissent cette enquête.
C'est le ressenti des usagers du vélo, mais c'est aussi, j'imagine, pour un futur, améliorer les pistes cyclables dans les villes, par exemple.
Oui, tout à fait. Et c'est le ressenti, je dirais, des cyclistes quotidiens, mais aussi des cyclistes de demain. C'est-à-dire que des personnes qui souhaitent aujourd'hui prendre leur vélo et qui ne le font pas pour tout un tas de raisons peuvent également participer à cette enquête parce que ça va nous permettre aussi, nous, associations affiliées à la Fédération des usagers de la bicyclette, de derrière réclamer des aménagements adéquats auprès des collectivités publiques.
D'accord. Et l'année dernière, ça avait donné quoi alors exactement?
Par rapport aux résultats?
Oui.
Alors les résultats, en tout cas pour la ville de Saint-Brieuc, n'étaient pas très positifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, la plupart des cyclistes ont vraiment signalé un sentiment d'insécurité dans le cadre de leur déplacement à vélo. Et on ne peut pas dire que rien n'est fait à Saint-Brieuc, mais il y a encore énormément de chemin à parcourir pour faire en sorte de réellement démocratiser le vélo, pour que tout le monde puisse prendre son vélo sans craindre pour sa vie ou voilà, dans le cadre de son déplacement.
Cécilia, Gladys, c'était la même chose, même résultat sur Brest ou pas du tout hein?
Oui, à Brest, en fait, l'enquête menée par le baromètre des villes cyclables a noté la ville de Brest à la 19e position sur 25e ville, compris entre 100 000 et 200 000 habitants.
Sur l'insécurité?
Voilà, donc c'était défavorable. Ah, plutôt le ressenti des cyclistes.
D'accord. Mmh. Donc il y a des progrès à faire en Bretagne. Hein.
Évidemment.
Bon, on ne parle pas de Quimper ou Lorient, on ne sait pas. Enfin, si vous avez certainement, vous, des idées. La première, c'était laquelle? Celle qui était la mieux classée?
Hein? Ah. Alors là vous
moi, j'aurais dit Strasbourg ou...
Strasbourg.
Nantes est bien placé également.
Ouais.
Voilà, Strasbourg, Grenoble, je sais que Grenoble également est pas trop mal. Et là, il va y avoir sans doute, en tout cas j'espère, que la ville de Bordeaux va se dégager de ce baromètre également, parce qu'elle mène en tout cas depuis quelques années une politique cyclable qui est remarquable.
C'est pas facile de partager la route, hein, de toute façon, hein, que ce soit les piétons, les voitures, les vélos et les nouveaux moyens de déplacement aussi, hein, les trottinettes et autres. Hein. C'est pas simple, hein.
C'est pas simple, d'autant plus qu'on est quand même un pays où la culture de la voiture est très implantée. Donc c'est parfois vu comme une régression hein, d'enfourcher une bicyclette, parfois vu comme une agression aussi hein, de la part des autres usagers de la route. Mais nous, cyclistes, avons également toute notre place à prendre en fait sur la chaussée. Évidemment, dans dans des aménagements dédiés, c'est mieux, hein, pour tout un tas de raisons, que j'espère qu'on va aborder. Mais effectivement, au quotidien, le partage de la route n'est pas simple, mais je dirais que c'est essentiellement dû au manque d'aménagement. Quand l'un n'a pas l'impression que l'autre empiète sur son espace ou le met en danger, forcément, je pense que la cohabitation peut bien se passer.
Donc, c'est une question aussi politique. Les élections approchent, les élections municipales, donc il y aura certainement des politiques qui vont s'emparer de ces dossiers. On va revenir sur ce vélo et sur son usage aujourd'hui en Bretagne et dans les grandes villes comme Brest ou Saint-Brieuc. Vous avez certainement des questions, des réactions. C'est le moment de nous en faire part. Nos invités sont là pour vous écouter, pour vous répondre aussi. 02 98 53 65 65.
9h-11h, La Vie en Bleu sur France Bleu Brésil.
fois, c'est le groupe Téléphone et c'est sur France Bleu Breizh-Izel.
France Bleu Breizh-Izel, la vie en bleu.
On parle vélo ce matin. Quel utilisateur de vélo êtes-vous? Plutôt sportif, loisir, ville, campagne, pas du tout? C'est le moment de venir en parler avec nos invités. Cécilia Laurent, membre de BAPAV à Brest à pied et à vélo et vélo heureux. Gladys Théo, animatrice en charge de vélo école chez BAPAV à Brest également. Et Priscilla Janot, qui est membre de Vélo Utile à Saint-Brieuc et de la Fédération des usagers de la bicyclette. On va peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est BAPAV, Brest à pied et à vélo, et Heureux Cyclage. Voilà un joli nom positif, hein, Cécilia.
Alors, je vais du coup parler du réseau de l'Heureux Cyclage, ouais. Pour commencer, dont BAPAV est membre depuis un certain nombre d'années. L'Heureux Cyclage, c'est une fédération d'associations qui sont des ateliers vélo qui, on va dire, suivent certains principes. Notamment la notion d'auto-réparation. Donc, ce sont des lieux où, sous réserve d'une adhésion, on permet en fait aux adhérents d'avoir accès à des outils pour réparer leur vélo. Mmh. Et donc l'idée étant de les inciter à apprendre à réparer par eux-mêmes, même si bien souvent ce sont des permanences avec des bénévoles qui sont là pour aussi aider, aiguiller un petit peu les personnes, leur montrer un petit peu les outils, et essayer de réfléchir ensemble sur comment réparer telle ou telle chose, ou comment ça peut être aussi modifier le vélo parce qu'on a envie de mettre un autre guidon ou changer un petit peu certains éléments. Mmh. Donc c'est voilà, il y a vraiment une idée de ce qu'on appelle la vélonomie, donc aider les personnes à être autonomes, avec l'idée derrière que c'est en pouvant être autonome sur un vélo, en rendant plus accessible l'accès au vélo et la réparation notamment du vélo, que on peut aussi diffuser la pratique de ce mode de transport. Donc le recyclage, c'est un réseau d'ateliers qui suivent ce principe-là, avec aussi une forte dimension récup, comme son nom l'indique. Ouais. Le recyclage, il y a vraiment cette idée de souvent dans les ateliers vélos, on nous donne des vélos, on en récupère. Certains ont même des accords avec les déchetteries pour récupérer des vélos qui sinon iraient à la benne et ouais. Voilà.
Et
il y a vraiment cette idée de redonner une vie en fait à ces vélos-là, de les réparer, de les transformer, parfois même en il y en a qui sont très bricoleurs, ouais. Qui fabriquent des nouveaux biporteurs avec deux vélos, enfin des choses très créatives. Et lorsque vraiment on peut pas réparer un vélo parce que vraiment le cadre est tordu ou quelque chose comme ça, on récupère les pièces. Et dans les ateliers vélo, vous remarquerez qu'il y a toujours plein de petites caisses avec les différentes pièces détachées d'occasion qui sont généralement revendues à prix libre et donc qui permettent de réparer son vélo en fait à un coût assez modique.
Donc rien ne se perd, hein, tout est remis à disposition de ceux et celles qui le souhaitent, hein, et ça permet de faire durer le vélo.
Voilà, c'est ça.
C'est une bonne idée, ça fait longtemps que ça existe. Hein.
Donc le recyclage, ça fait un certain nombre d'années, ouais. Je ne sais pas exactement combien.
Mais en tous les cas, vous avez un bon nombre d'adhérents.
Oui. Il y a vraiment des centaines d'ateliers en France qui sont adhérents de la structure. Le recyclage a 3 salariés. Et je voulais dire aussi que c'est un réseau qui propose des formations notamment liées à ce côté un peu récup. On appelle ça le réemploi, en mm-hmm. fait, le réemploi des cycles. Donc des formations sur différents aspects de la mécanique vélo, également des formations sur la pédagogie. Comment faire en sorte que dans un atelier, on aide les gens, mais sans faire à leur place? Ça, c'est une grosse problématique. Parce que souvent, quand on arrive dans un atelier vélo, on se dit, oh là là, je ne sais pas faire. Celui-là, il est là depuis des années. Et puis, il y a la tentation de laisser faire.
Oui, donc l'objectif, c'est aussi de transmettre. Hein,
voilà, exactement.
Que d'autres fassent.
Il y a vraiment l'idée de transmettre. C'est un réseau qui s'inscrit complètement dans le mouvement de l'éducation populaire.
Exactement. Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. On va continuer évidemment à en parler. On va accueillir Anne-Marie qui est en ligne avec nous à Pont-l'Abbé et qui souhaitait intervenir. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour, c'est Michel.
Ah, c'est Michel. Bah écoutez, erreur de prénom.
Non, c'est mon épouse Anne-Marie.
Ah d'accord, ok. Bon, bah écoutez, Michel, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tout le monde. Alors c'est simplement pour vous dire que lorsque il pleut, on a besoin d'un poncho pour pouvoir rouler. Et on a du mal à trouver dans le commerce des ponchos jaunes, de couleur très vive pour être vus.
Ah, donc, les ponchos jaunes.
Un poncho pour se couvrir de la pluie. Et parce que déjà, en temps ordinaire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui respectent de dépasser à plus d'un mètre un vélo, un cycliste. Et le dernier point, c'est de parler des piétons. qui sont avec un casque ou avec des smartphones et traversent, ils entendent déjà pas les voitures, alors ils entendent encore moins les vélos. Et j'apprécie beaucoup lorsqu'il y a des piétons à un passage, je me laisse passer parce que ça évite de freiner, parce que je suis surpris, je freine. Mm-hmm. Et puis bon, ben, ils ont la correction de me laisser passer, et puis c'est bien.
Bon, bah écoutez,
il manque un peu de courtoisie sur la route. C'est surtout les gens, ils roulent avec leur voiture, ils font pas attention, et les cyclistes, ça n'existe pas pour eux. Ils ont du mal à les dépasser à plus d'un mètre.
D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va peut-être commencer par les ponchos. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce qu'on a de la pluie quand même un petit peu en Bretagne. Et les ponchos jaunes, on n'en trouve pas ? Jaune ou autre couleur,
parlons
d'ailleurs.
Parlons poncho, effectivement, c'est un vrai sujet dans nos contrées. Ouais. Merci Michel. C'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que vous soulevez la question de la visibilité en fait du cycliste en parlant de votre poncho jaune. Voilà, pas de n'importe quelle couleur. Effectivement, le jaune, ça permet d'être bien vu. Parce qu'effectivement, on sait que voilà, quand il y a des accidents. Impliquant des cyclistes, c'est souvent un problème de visibilité du cycliste, bon, lié à plusieurs facteurs, hein, ça peut être des intersections auxquelles on est mal vu, etc. Mmh. Mais c'est sûr que le fait d'arborer des couleurs voyantes, ça aide. Alors sur la question de où trouver le poncho jaune, effectivement, peut-être que dans les magasins par ici, c'est pas évident. Après, il y a quand même, bon, on va pas citer d'enseignes,
hein,
mais bon, il y a quand même plusieurs enseignes qui
sportives, hein.
Sportives, voilà, grosses, bleues, qui peuvent proposer ce genre de choses. Et après, vous avez des boutiques en ligne aussi qui proposent des marques très intéressantes, de bonne qualité. Enfin, parfois, ça vaut le coup de prendre une marque un petit peu plus chère, qui a souvent des matériaux qui vraiment sont plus durables et qui vous protégeront même pendant plusieurs heures de pluie.
Voilà. Il y a même des bâches qui existent. J'ai vu un reportage hier ou avant-hier, je ne sais plus, des bâches qui s'adaptent à chacun des vélos, y compris les vélos qui sont allongés. Là, il y a des grandes bâches comme pour en fait les scooters qui s'adaptent et qui sont en dur. Ce qui évite d'avoir la projection de pluie sur la figure aussi. Hein. Mais bon, alors j'ai pas retenu où ça se faisait ni quoi que ce soit.
Gladys, oui, tout à fait. Ouais. Et je parle aussi au niveau du poncho. Si vous trouvez pas en fait la couleur jaune, vous pouvez rajouter un gilet rétro réfléchissant de couleur jaune ou verte et vous serez visible par tous les autres usagers.
Donc c'est important effectivement d'être vu. Après, alors le respect, hein, ça aussi forcément, c'est important. On parlait de partage tout à l'heure, c'est ça aussi, hein, le respect, la courtoisie. Hein.
Alors c'est vrai que la cohabitation entre cyclistes, automobilistes et même piétons, comme vous dites Michel, n'est pas toujours évidente. Après, c'est souvent plutôt un problème finalement d'aménagement. Enfin, c'est ce qui remonte, hein, des nombreuses études qui ont été faites là sur les dernières années, que finalement c'est aussi parce que le cycliste ne sait pas toujours bien où se placer, parce que voilà, on n'a pas des bandes cyclables continues sur tous les trajets, donc ça oblige parfois à se mettre un petit peu dans des situations de conflit. Sur la voie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent un problème de visibilité. Enfin, l'automobiliste voilà, n'a pas forcément voulu mal faire, mais juste n'a pas vu, parce que c'est souvent des problèmes d'angle mort, notamment sur les ronds-points, les giratoires. Là, on a vu à Brest que c'était une grosse partie des accidents, c'était sur les ronds-points, parce que tout simplement, le cycliste en fait, est dans une partie du rond-point, souvent quand il est plutôt sur l'extérieur de l'anneau, en fait, n'est plus dans le champ visuel de l'automobiliste, ou même caché par le rétro parfois. Et c'est souvent ce genre de situation en fait qui
amène
à des situations un petit peu dangereuses où bon, dans le meilleur des cas on se fait juste peur, mais parfois on a des accidents
qui peuvent être plus graves effectivement. On revient sur France Bleu Brésil et on remercie Michel pour son intervention. On revient dans quelques instants avec un joli témoignage que l'on va vous livrer d'une ancienne factrice et elle a beaucoup de choses à dire également. Si vous aussi vous souhaitez intervenir, 02 98 53 65 deux fois. Priscilla, on vous oublie pas, on sait que vous êtes en ligne avec nous depuis Saint-Brieuc.
À Pinmar, ma radio, c'est France Bleu Brésil.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Remind me once again just who I am, because I need to know.
Lorraine Daigle sur France Bleu, Brézizel, You Say.
France Bleu.
À 10h,
on cuisine ensemble
sur France Bleu Brézizel.
En pleine saison, des champignons, on cuisine ensemble les cèpes ce mercredi. On va en parler en studio avec Jérémy Diraison du restaurant La Parenthèse à Quimper, rue de la Providence. Il sera avec nous en studio pour nous dire comment il cuisine ses champignons et plus particulièrement ses cèpes. Venez nous rejoindre dès 10h ce mercredi au standard de France Bleu Brézizel.
Wow, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Légué à la Fondation ARC, c'est accélérer la recherche sur le cancer. Philippe Chavrier est directeur de recherche CNRS à l'Institut Curie.
À terme, ce qu'on peut espérer, c'est identifier de nouvelles approches thérapeutiques qui vont cibler certains des mécanismes qu'on aura identifiés grâce au soutien de la Fondation ARC. Et on peut espérer de nouveaux médicaments qui vont bloquer ou au moins retarder le processus métastatique.
Vous aussi soutenez la recherche sur le cancer par un leg à la Fondation ARC. Pour plus de renseignements, appelez le 01 45 59 59 01.
La vie en bleu sur France Bleu Brézizel.
Le vélo, c'est bon pour l'économie de proximité, c'est bon contre le stress, c'est le complément idéal des transports en commun, c'est bon pour la santé, mais ça représente aussi parfois des dangers. On en parle ce matin avec nos invités sur France Bleu, Brézizel, Cécilia Laurent et Gladys Théo de Bapav à Brest et Priscilla Jeannot de Vélo Utile à Saint-Brieuc. Un petit mot de Françoise qui nous dit par téléphone, mais elle n'a pas le temps, elle a un impératif, donc elle nous le dit juste comme ça. Elle dit le casque est très important pour les enfants comme pour les adultes. C'est vrai que c'est hyper important, c'est indispensable même. Hein. Mais sauf que quand on regarde les cyclistes, parfois le casque fait défaut.
Eh bien, depuis 2 ans, depuis mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Donc ça, c'est la règle. Ouais. Et puis ensuite, au niveau de la Fédération des usagers de la bicyclette, on milite plutôt pour les mobilités actives et notamment le vélo. Pas forcément pour l'obligation du port du casque. Puis, parce que pour nous, en fait, l'important, c'est qu'il y ait de plus en plus de cyclistes. Mmh. Et plus il y aura de cyclistes, et moins il y aura d'accidents. Les
Donc,
études le montrent.
Le port du casque, oui, c'est hyper important. Cécilia ?
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent du casque. On a étudié la question de près. La FUB a fait un dossier sur le sujet. Et il y a une étude notamment qui a été effectuée dans le Rhône, auprès des centres hospitaliers, pour essayer d'analyser en fait, quels étaient les types de blessures des cyclistes. En fait, parmi tous les blessés répertoriés, il y avait seulement 1% qui avait une blessure grave à la tête. Voilà. Donc, faut quand même savoir que la plupart des accidents, c'est quand même des blessures plutôt bras, jambes. Après, bien sûr, il y en a quelques-uns à la tête, mais c'est pas si majeur. Il a même été démontré que obliger le port du casque, le rendre obligatoire, ça diminuait en fait la pratique du vélo. Ça a été vu au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, faut quand même faire attention à ça. Mm-hmm. Donc, bien sûr, enfin, c'est mieux de mettre un casque, ouais. Ça c'est certain. Il faut que ça reste au libre choix des personnes. Après, voilà, les enfants, c'est obligatoire. La question se pose pas. Mais en tout cas, pour réduire les accidents, c'est ce que Gladys vient de dire, hein, c'est la question de la masse critique. En fait, plus on a de cyclistes et plus on est protégé par la masse des cyclistes, en fait, parce que les automobilistes sont plus habitués, font plus attention, puis les cyclistes prennent plus de place. L'autre chose qui joue beaucoup, le facteur qui permet de réduire en fait, ce nombre d'accidents, c'est la réduction de la vitesse, notamment en ville. Et dernière chose, il faut rappeler que, en fait, souvent, on a peur de faire du vélo en ville. Et en fait, c'est plutôt en milieu rural qu'on a le plus d'accidents, ouais. Et notamment d'accidents graves. Voilà.
Parce que les gens roulent plus vite qu'en ville.
C'est ça, voilà. Autres. Donc, c'est beaucoup une question de vitesse.
Alors, un petit message que je voulais vous livrer avant que l'on accueille Michel. Le vélo en soi n'est pas dangereux, nous dit cette auditrice. Il faut que chacun respecte un minimum de règles et fasse de grandes prudence. Je suis une ancienne factrice à vélo et j'ai toujours fait du vélo. J'ai 3 vélos dans mon garage, dont un électrique. Dès que je peux, je vais chercher du pain vélo. J'habite à la campagne, mais je ne vais pas sur les grandes routes car j'ai peur des automobilistes qui frôlent. C'est normalement 1,50 m de sécurité que peu respectent. Et j'ai eu très peur une fois car je me suis fait insulter gratuitement sur le bord de la route. Je souhaiterais que les villes comme les communes et le département développent plus de pistes cyclables, surtout en bord de mer et sur les grandes routes, voire en ville, afin que nous soyons protégés. Aujourd'hui, je préfère les bords du canal et les voies vertes. C'est une mine d'or pour le tourisme en Finistère qu'il faut vraiment creuser aujourd'hui. Beaucoup de choses donc dans ce qu'elle dit. Peut-être qu'on va écouter Priscilla nous faire un petit commentaire, puisqu'elle est à Saint-Brieuc au téléphone avec nous. Priscilla ?
Oui, c'est intéressant ce que dit cette dame justement par rapport à sa pratique du vélo, et elle a quand même commencé ses propos en disant que le vélo n'était pas dangereux en tant que tel. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est qu'effectivement le vélo finalement est le mode de transport le plus efficace et effectivement pas du tout dangereux à la fois pour le cycliste et pour les autres usagers. Après, bien sûr, on peut faire une mauvaise chute, mais un cycliste qui provoque un accident, je pense que, à mon avis, ça doit être absolument infime. Mais ce que soulève également cette personne, effectivement, c'est le manque d'infrastructures. Mmh. Et j'ai envie de dire que globalement, quand même, ça va dans le bon sens. À Saint-Brieuc, il y a quand même un certain nombre de d'aménagements qui ont été faits, plus ou moins qualitatifs, qui permettent plus ou moins de se déplacer sereinement sur la totalité d'un parcours. Parce que c'est ça aussi que nous, on rappelle au sein de Vélo Utile, c'est que c'est bien de faire des aménagements, c'est mieux quand ils sont qualitatifs et quand ils permettent vraiment d'assurer une continuité de parcours, pas quand l'aménagement s'arrête juste avant une intersection, comme c'est souvent le cas, par exemple, alors que l'intersection est le moment où le cycliste va se retrouver dans la circulation des motorisés et exposé aux dangers que cela induit. Donc, elle soulève voilà toutes ces questions d'aménagement qui, effectivement, sans aménagement, on n'y arrivera pas. Et contrairement à ce qu'on peut penser également, les aménagements, c'est pas que en aire urbaine qui doivent être réalisés, c'est également évidemment à la campagne. Oui. D'autant plus à la campagne, en général, il y a quand même un réservoir de routes comme ça qui sont inutilisées ou alors qui sont utilisées que par un certain type d'utilisateurs. Je pense à certains chemins de campagne, etc. On peut tout à fait penser à les réhabiliter et à en faire vraiment circuits en fait de qualité pour que les cyclistes puissent se déplacer, y compris en zone rurale.
Bon, il y a plein de choses effectivement à faire et comme elle le dit, c'est une mine d'or pour le tourisme, la campagne, parce que oui, on a le temps de regarder un petit peu à droite et à gauche ce qui se passe. Michel est en ligne à Plougastel d'Aoulas. Bonjour Michel.
Bonjour.
On vous écoute.
Déjà, c'était pour féliciter France Bleu Brésil de faire enfin une émission sur le vélo, mais pas faire de la pub pour le lobby électrique. C'est la première fois que j'entends qu'on parle de vélo et pas de vélo électrique.
Ah non, 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 là je vous coupe, j'en ai déjà fait plusieurs sur le vélo, mais bon, voilà, on va plutôt aller à votre question.
Donc, c'était pour poser une question à la dame de Heureux Cyclage.
Ouais.
Savoir s'ils sont pas trop embêtés justement pour le recyclage des batteries électriques, savoir quelle est la filière et comment ils font pour évacuer tous ces problèmes de batteries usagées, là, qu'il n'y a pas que des vélos de bonne qualité, donc ils doivent sûrement récupérer un bon paquet de batteries.
Ouais, alors Cécilia, sur les batteries électriques, vous en récupérez beaucoup ou pas?
Alors, c'est vrai que le sujet des vélos électriques, bon, finalement, est assez récent. C'est vrai qu'il y a eu un essor avec des ventes qui explosent. Alors, le réseau de le recyclage n'est pas, on va dire, spécialiste de la question. On est vraiment plutôt sur la mécanique vélo, hors électrique. Même si, bien évidemment, on voit de plus en plus arriver dans les ateliers d'autoréparation des vélos électriques. Alors, bon, les vélos en eux-mêmes, on les répare comme un vélo normal, finalement, parce qu'en dehors du système électrique, ça fonctionne exactement pareil, les freins, etc. Alors, du coup, dans le réseau, on ne s'occupe pas actuellement du recyclage des batteries. Vous avez raison, c'est une vraie question. Il arrive qu'on remette en circulation un vélo électrique. Enfin, ça commence à arriver. Là, qu'on récupère des vélos électriques, on les remet en circulation quand ils fonctionnent. Parfois, si c'est adéquat, on enlève même la batterie et le système électrique. On les déselectrifie et on les remet en circulation sans leur système électrique en vélo simple. D'accord. Ça nous est arrivé à Bapav, à Brest.
Bon, bah de toute façon, il y a des solutions pour les batteries, mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est bien d'avoir posé la question aussi parce que on voit que ça intéresse effectivement bon nombre d'entre vous. On va accueillir Gérard également qui est en ligne. On remercie Michel, bien sûr. Bonjour Gérard.
Bonjour à vous tous. Voilà, moi ce que je voulais signaler, c'est que les vélos, ils ont des défauts, beaucoup de défauts. Ils n'ont pas de sonnette. En tous les cas, les gens ne s'en servent pas. Un avertisseur, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous savez, je suis donc malvoyant. Mm-hmm. Et il y en a près de 2 millions en France qui, les couleurs, tout ça, c'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent entendre un bruit pour pouvoir se garer quand ils entendent un vélo arriver. Alors un vélo, quand il doit dépasser un piéton, j'estime qu'il doit prévenir qu'il arrive.
D'accord, alors la sonnette sur le vélo, elle n'existe pas ?
Alors effectivement, ouais, la sonnette...
Inaudible peut-être
à votre sens.
Alors merci pour cette question. Du coup je vais parler des équipements obligatoires à avoir en tant que cycliste sur le vélo et notamment l'avertisseur sonore qui doit être audible à plus de 50 mètres. Donc c'est obligatoire et s'il manque cet élément-là, on peut avoir une amende de 11 € par élément manquant. Et je continue sur les équipements obligatoires qui font partie de la sécurité. On doit avoir un frein avant, frein arrière qui fonctionne, un éclairage à l'avant, lumière blanche, à l'arrière, lumière rouge, des catadioptres à l'avant blanc, rouge à l'arrière, et des catadioptres sur les pédales et également sur les roues. Et puis le port du casque obligatoire, donc pour les enfants de moins de 12 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le gilet aussi rétro-réfléchissant, hors agglomération, en cas de faible visibilité ou de nuit.
D'accord.
Voilà pour les équipements obligatoires.
Et mais donc, comme le dit Gérard, parfois il n'y a pas de sonnette, ou en tous les cas on ne se fait pas entendre. Et ça c'est un peu problématique.
Alors moi je trouve ça intéressant justement la question qu'il soulève Gérard, c'est la question aussi du savoir-être du cycliste et c'est évidemment une question que l'on traite au sein de nos vélo-écoles, Gladys au sein de Brest à pied à vélo et moi au sein de Vélo Utile. C'est pas parce que l'on sait faire du vélo, c'est-à-dire que l'on sait pédaler, que l'on sait finalement avancer avec son vélo, que l'on est un bon cycliste. Mmh. Et c'est pour ça que les vélo-écoles, entre autres, se sont implantées un peu partout sur le territoire, au sein d'associations. C'est justement pour aider à acquérir ce savoir-être, y compris vis-à-vis des autres usagers. Alors après, Gérard, lui, visiblement, ça n'a pas l'air de le déranger, hein, qu'un cycliste actionne sa sonnette pour signaler sa présence. D'expérience, je sais que c'est pas forcément très bien vécu de la part des autres usagers. C'est parfois vécu comme une agression, mais ça dénote toujours pareil, hein, la question des aménagements. Mmh. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le cadre moi de ma pratique, quand je suis amenée vraiment à signaler à un piéton ma présence, c'est que je suis amenée à cohabiter avec ce piéton. Donc, c'est que souvent il y a un problème de conflit d'usage. C'est que la piste cyclable, elle va être justement juxtaposée à un trottoir. Et là, on se pose la question de est-ce que c'est pertinent pour le coup de faire un aménagement comme celui-là, qui à la fois va peut-être faire peur aux piétons, va faire peur aux cyclistes, et du coup ne va pas aider à développer la pratique.
Mmh. Bon, en tous les cas, il y a beaucoup de choses à dire sur le vélo. Je crois que vous allez être obligés de revenir, hein, toutes les trois, parce qu'on est déjà au terme de cette émission. Ça passe à vitesse grand V. On ne peut que donner quelques conseils, et je suis désolée pour Michel qui souhaite intervenir également, et bon nombre encore, mais on n'a vraiment pas le temps de vous prendre en direct sur France Bleu Brésil. On ne peut que conseiller évidemment d'être prudent sur les routes, quelles qu'elles soient, en ville, à la campagne. Un petit mot de la fin, chacune d'entre vous, Priscilla, peut-être vous qui êtes avec nous en direct de Saint-Brieuc.
Oui, alors d'être prudent, mais j'ai quand même envie de rappeler aussi que le vélo, c'est quand même vraiment beaucoup de plaisir au quotidien. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des dangers. J'ai pas envie qu'on stigmatise le vélo, c'est trop dommage.
C'est vrai.
Ça procure beaucoup trop de bien-être au quotidien. Forcément, je suis une convaincue, mais voilà, il y a énormément d'associations sur le territoire national aujourd'hui qui sont là et qui peuvent vous aider à la fois à entretenir votre vélo, à le réparer et avec les vélos écoles, à devenir un cycliste accompli qui n'a pas peur, qui sait se déplacer en toute sécurité, etc. Je pense que vraiment, pour tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils hésitent à franchir le pas, allez-y. Il y a forcément une association adhérente à la FUB près de chez vous qui est là justement pour vous conseiller, pour vous aider. Et c'est beaucoup de bonheur qui vous attend par la suite. Évidemment, malheureusement encore, quelques frayeurs, voilà, quand la cohabitation est difficile, mais c'est surtout voilà beaucoup de plaisir au quotidien.
Et je vous coupe, Priscilla, parce que on est déjà très très en retard, et je voulais dire donner deux mots de conclusion également à Gladys et Cécilia.
Voilà, une note très positive également qui va être mise en place, le savoir rouler pour l'apprentissage de la mobilité à vélo pour les enfants dès l'école primaire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment depuis avril 2019 pour transmettre la culture vélo à un public, à une future génération de cyclistes, donc qui va jouer notamment sur la sécurité. Et puis, pour le mot de la fin, on vous donne rendez-vous le dimanche 10 novembre à Brest, rue de Siam, près de la Poste, pour l'événement Tous à vélo. Donc, à 11h le dimanche 10 novembre, pour donner de la voix aux cyclistes, notamment en lien avec la campagne des élections municipales.
Bon, Priscilla et Gladys ont eu deux mots, Cécilia, un seul.
Alors, j'essaie de faire vite. Juste pour dire qu'aujourd'hui, la part modale du vélo parmi les déplacements en France, notamment sur le trajet domicile-travail, est très faible. 2% seulement aujourd'hui contre 70% pour la voiture. Ouais. Donc, on a vraiment une marge de progression. Apparemment, un des principaux freins, c'est les aménagements non adaptés. Pour nous aider à savoir quel type d'aménagement il faut, répondez au baromètre des villes cyclables sur parlonsvélo.fr.
Voilà, exactement. Merci. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Demain, nous, on se retrouve à partir de 9h. Et demain, on parlera des massages pour les bébés. Ça aussi, c'est bon pour la santé.
La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr.